Ça se passe près de chez nous.
Un air de vie.
Bonjour à tous, vous écoutez Principe Actif. Bienvenue dans notre émission Un air de vie. Bonjour Kevin.
Salut Jérôme.
Bonjour Fred.
Salut Jérôme, salut Kevin.
Nous salut avons Fred. Un invité aujourd'hui. Fred, je te laisse le présenter.
Bon, je pense qu'il peut se présenter tout seul.
Bah, je m'appelle Robin, alias Gorge Rouge sur Internet.
Enchanté Robin, bienvenue parmi nous.
Bonsoir.
Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une association.
L'association
Heure en transition.
Mais avant, l'actualité.
Fred. Oui, l'actualité, la semaine dernière, nous étions en vadrouille, Kevin et moi, sur le beau territoire normand. Ça se passe près de chez vous. Hein. On était à...
Au Val-David.
Qui fêtait
donc sa quatrième édition de sa semaine sans pesticides.
Sans pesticides, voilà. Nous sommes allés à la rencontre de M. Girard, que nous avons déjà eu sur notre plateau à deux reprises. Et il organise une manifestation dans son petit village pour rencontrer, pour discuter et pour... échanger autour de l'absence de pesticides.
Ouais, et on retrouvait aussi plein d'acteurs locaux, dont des assos, des fermes qu'on avait été même à leur rencontre, la ferme de Chloé, l'asso Terre de Liens, etc. Il y avait des petits stands d'information, la LPO.
Enercop, Madame
ouais.
Foutard. Enfin,
on retrouve un petit peu près tout ce beau monde.
Que le petit monde bien connu. Et en parallèle de ça, donc c'est un festival qui s'est tenu sur deux jours, très sympathique. Et en parallèle de ça, mardi soir, il y a encore une émission à la télé sur Arte, Pesticides et Santé, avec un bilan vraiment catastrophique pour ce fameux glyphosate composé principal d'un célèbre désherbant. Donc je me tairai le nom juste par souci de pas lui faire plus de publicité. Non mais il faut savoir qu'à la limite ça sert quasiment plus à rien de le dénoncer puisque la molécule est tombée tout le monde a le droit de s'en servir du glyphosate, donc on va le retrouver dans d'autres produits que le Roundup. Donc il y a plus que le Roundup à interdire. Après c'est vrai que le Roundup il est associé à d'autres molécules qui elles posent problème.
En fait tu veux dire que maintenant n'importe qui peut utiliser le glyphosate, c'est ça?
Voilà,
c'est plus breveté. Voilà. Et ce qui est marrant c'est que ça correspond à peu près à la période où seulement maintenant, il vient de rentrer dans le classement du tableau du CIRC, donc le Centre International de Recherche contre le Cancer, où il a été classé en niveau 2, donc en agent en fait...
Potentiellement cancérigène, non, c'est pas voilà. ça.
C'est, attends, non, et en fait, ils font... C'est pas potentiel, probable, il marque. C'est l'avant-dernière marche avant la certitude scientifique absolue, qui est très rare malheureusement, mais bon, en tout cas, on est quasiment sûr que c'est pas bon, quoi.
Oui, et puis enfin, c'est vrai que c'est assez amusant dans les appellations, mais on sent quand même qu'il marche sur des œufs. C'est probable, cancérigène probable. Enfin,
c'est possible.
Aussi, voilà.
Ouais, mais c'est intéressant de classer comme ça, parce que des fois, c'est vrai que la vérité pure scientifique est dure à amener, donc il faut quand même bien pouvoir nuancer quand même, quoi.
Oui, non, mais en même temps, je ne sais pas si le message passe vraiment clairement d'un autre côté. Enfin, bon.
Tu crois ?
Moi, j'ai vraiment trouvé le moyen de vous convaincre. Demain, les pesticides, on arrête tous. Enfin, nous, ici, sur le plateau. Puisque le sperme serait affecté par les pesticides. J'ai lu ça dans Le Monde du 31 mars. Et une étude révèle que les niveaux de résidus de pesticides les plus élevés dans les fruits et légumes consommés sont associés à une moindre qualité de sperme. Et notamment sont mis en cause la consommation de fraises, de pommes, de poires et d'épinards. Donc, cette étude nous montre qu'un consommateur de fruits et légumes traités aux pesticides a un nombre de spermatozoïdes inférieur de 49%, et donc 86 millions par éjaculat contre 171 millions. Et je pense que ce genre d'argument doit décider chacun.
On est tellement dans la bio, là.
Eh bien, c'est exactement la fin de l'article. Enfin, comment éviter comment contourner ce risque potentiel? Il faut s'orienter vers la consommation de produits bio. Il faut savoir que ce n'est pas du tout quelque chose de récent. Hein. Ils s'en sont rendus compte dès 1989, où ils se sont rendus compte que la concentration de spermatozoïdes avait chuté chez un tiers des Français. Après, les explications sont multiples. Elles ne sont sans doute pas que liées à la présence de pesticides dans notre alimentation, mais c'est aussi un élément et qui est maintenant prouvé. Notamment, et c'était intéressant, ils se sont rendus compte que cette diminution de fertilité était liée à des zones géographiques, notamment celles de viticulture, et on sait qu'en viticulture, il y a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont utilisés. Donc voilà, messieurs.
Vous l'avez vu le reportage sur Arte ?
Alors moi, personnellement, non. Mon vendeur de produits bio préférés me l'a chaleureusement conseillé.
Un film d'horreur.
C'est vrai.
C'est pire qu'Alien, 1, 2, 3, 4, tout. Donc, je racontais un petit passage hors antenne.
Raconte le cochon.
Voilà, un éleveur danois de cochons, il est dans la caméra, l'équipe de journalistes est avec lui, donc dans le bâtiment où il y a les truies qui sont bloquées, tous les petits cochons qui sont en train de téter. Et l'éleveur, il a un petit cochon dans les bras, et puis bon, qui semble mignon hein, de loin comme ça. Et il dit, de toute façon, ce cochon-là, dans quelques heures, il est mort. Alors tu te dis, tiens, c'est bizarre quoi. Et la caméra zoome sur le cochon, et en fait, le petit cochon, il a pas de nez. Donc en fait,
carrément.
Voilà, donc soit il boit,
il a pas de groin.
Il boit, il peut pas respirer, soit il boit et il s'étouffe. Soit il respire, il peut pas boire.
Donc,
voilà.
Donc c'est une malformation de.
J'ai mis un conditionnel. Hein, mm-hmm. D'accord.
Potentiellement.
Okay. Potentiellement, probablement lié justement à la nourriture de la maman truie qui donc a mangé des OGM qui viendraient d'Argentine où on arrose les champs à tour de bras de glyphosate pour cultiver uniquement donc du soja transgénique, etc.
Donc ce fameux OGM qui résiste seulement à cette substance-là.
Et donc le reportage montre les effets aujourd'hui sur des animaux d'élevage et le reportage montre aussi les effets sur des enfants en Argentine où le nombre de malformations explose. Mais vraiment, augmente énormément. Et ce dont on ne se rend pas compte non plus, c'est que nous, déjà au niveau européen...
Parce qu'en fait, les enfants en Argentine sont aussi nourris avec les porcs.
Non, parce que ce que montre... Ouais.
Mais pourquoi tu rigoles?
Il y a une blague? Bah, j'ai pas compris la blague.
Tu veux dire qu'ils mangent les porcs ou qu'ils.
Oui.
D'accord.
En fait, parce
que justement, le reportage montre deux choses. La première chose, c'est que les champs où est cultivé le soja sont énormes, immenses. Et donc, le glyphosate est arrosé avec des avions. Et le pilote se moque de ce qu'il a en dessous. Et là, justement, le reportage est dans une école. Et grosso modo, glyphosate, t'as plein de glyphosate qui tombe sur... Le désherbant tombe sur l'école. Ouais. Et il s'en moque complètement.
Et là, on en revient sur le combat où tu en reparlais aussi dans les dernières actus. Ou même en France, là, on a enlevé finalement l'interdiction de l'épandage de pesticides à côté.
Ça, c'est la première chose. Effectivement, la deuxième chose, c'est la chaîne alimentaire. Parce que mine de rien, tout le monde en a, les animaux, etc. Et donc, on retrouve du glyphosate chez l'humain après consommation de porcs qui ont été nourris avec des aliments transgéniques. Et ça va même un peu plus loin en Europe. C'est que, il y a certaines études réalisées par les Allemands. C'est qu'aujourd'hui, la flore bactérienne de l'estomac, des intestins est en train de se modifier. À tel point qu'elle s'appauvrit et il pourrait y avoir vraiment des gros problèmes dans tout ce qui est digestif chez l'humain à cause de ça. Parce que ça tue les bactéries également.
Alors moi, je parlais de ce reportage que je n'ai pas vu, mais alors il faut rappeler que tous les reportages qui passent sur Arte, comme ça, on peut très facilement les retrouver sur Internet. Donc c'est très facile d'avoir accès à ce reportage. Je crois que c'est pendant 7 jours. Et donc on m'en a parlé et c'est vrai que moi, je n'ai pas vu celui-ci, mais j'en ai vu plein d'autres. Et à chaque fois, on ressort de ces reportages en étant complètement consterné par tout ce qu'on y voit. Et finalement, on a l'impression que les choses changent pas beaucoup. Qu'on a été allé voir, je ne sais plus quel invité qui nous parlait de personnes qui étaient commerciales chez Roundup et qui buvaient des verres de Roundup pour prouver que c'était... Et ça, c'était il y a quelques années. On en était à là. Aujourd'hui, on arrive à un point où on commence à suspecter, alors que globalement, je pense que les dangers du glyphosate, tout le monde en a plus ou moins conscience à un moment ou un autre. Je veux dire, quand c'est un pesticide, c'est forcément un produit qui amène des problèmes. C'est un produit dangereux. Et en plus, derrière ça, ce qui je trouve encore plus grave, c'est toute cette problématique des OGM qui sont censés résister au Roundup et qui permet de mettre plus de Roundup qu'avant. Quoi. Je veux dire, on pourrait se dire que ce soit des plantes où les champs seraient plus facilement nettoyés. Et non, finalement, ils sont obligés d'en mettre plus. Et donc, les quantités augmentent. Alors, on sait où est-ce que va l'argent. Hein, parce que c'est les mêmes personnes qui vendent à la fois les produits, les semences et tout ça. Enfin, si même c'est pas la même boîte, ça va pas dans des poches.
On sait
qui
où
sont
va l'argent, mais on ne sait pas où ce type d'agriculture, ça va nous mener. Quoi.
Bah, on sait que ça nous mène dans le mur à un moment ou un autre. C'est juste la distance par rapport au mur qui pose question. Quoi.
C'est marrant, je rebondis parce que c'était toujours sur les pesticides. Moi, j'avais relevé là dans Le Monde. Alors, ce qui était marrant, c'était pas une attaque d'une asso écolo ou quoi que ce soit. C'était les consommateurs de baleines, nos amis les Japonais. qui se sont plaints des Norvégiens qui leur vendent, je crois que c'est la Norvège et j'ai un trou, et l'Islande, je crois que c'est les deux seuls pays qui sont officiellement chasseurs de baleines. Et ils leur ont vendu des baleines avec trop de pesticides. En fait, au-dessus des taux réglementaires pour la consommation propre des Japonais. Et alors, j'ai trouvé ça plutôt insolite, dans le sens où c'est les consommateurs. voilà. Les... en plus, bon, ils mangent des baleines, c'est quand même. C'est pas des baleines d'élevage, quoi. Vous avez bien compris.
Donc voilà pour le volet pesticides, effectivement. Mais regardez ce reportage. Ça fait froid dans le dos.
Ok.
Voilà, ça vous incoche pas. Un petit actu sur la déviation sud-ouest. Hein. On avait longuement débattu avec Fred sur cette antenne, et notamment de ce qui est de ses conséquences écologiques entre guillemets. Mm. Il y a une petite lettre d'information donc diffusée par le ministère de l'écologie, enfin sa branche, la DREAL, sur justement le reboisement, ce qu'on appelle la compensation. Et donc, bah moi, si je me fie, si j'ai confiance en ce qui m'est dit dans cette lettre établie par le ministère, effectivement, il y aura une très grande surface qui sera reboisée au titre de la compensation écologique. On va peut-être expliquer rapidement. Lorsqu'il y a des gros travaux réalisés par l'État ou même des collectivités ou même des privés qui touchent, on va dire, une zone boisée, une zone d'intérêt, faune, flore, etc., eh bien, le maître d'ouvrage doit compenser, c'est-à-dire qu'il doit développer ou recréer un intérêt écologique à un autre endroit. Il compense. Et donc, là, moi, si je me fie à cette lettre, hein, clairement, il y a 35 hectares qui vont être reboisés, alors qu'il n'y en a que 25 qui ont été déboisés. Donc, c'est plutôt favorable
pour l'environnement. Voilà, bon, faut savoir quand même que les mesures de compensation concernant le rond-point de Campbell, hein, qui est maintenant mis en circulation depuis quelques années, n'ont pas été réalisés, enfin n'ont pas été intégralement réalisés. Je veux dire, après, il y a la théorie et la pratique, on peut espérer que ces 135 hectares voient vraiment le jour.
Justement, parce que moi, là, j'allais vous poser quelques questions, parce que là-dessus, j'ai lu un article dans Le Canard qui parle donc de...
Tu lis Le Canard?
Ouais, qui parle donc de Ségolène, donc il se moque un petit peu de Ségolène et de son attitude écolo, on va dire... Enfin bref, quoi, un peu trop laxiste, on va dire. Et
il parle des loups ?
Il parle, non, de la compensation. Et là, alors, c'est là que je suis assez surpris, parce que quand là, je lis dans l'article, c'est pas tout à fait la même définition de la compensation. En fait, il parle que la Caisse des dépôts et de consignations, en fait, a déjà en fait, des terrains et qui sont proposés en fait, à la vente justement, donc de promoteurs qui vont faire des travaux. Si on comprend l'article, il y a déjà 357 hectares qui appartiennent en fait donc à cette Caisse des dépôts, qui sont protégés. Et si par exemple quelqu'un est, ils vendent à 40 000 euros l'hectare. Donc si une personne, par exemple, on chiffre sa compensation à 40 000 euros, en fait, il va acheter un hectare à la Caisse des dépôts et c'est compensé. Sauf que moi, quand je dis ça comme ça, je vois pas de compensation parce que ça veut dire que le terrain il existait déjà. Donc finalement. La compensation là ?
Oui, parce que c'est un terrain qui est préservé avec un.
Mais il était déjà préservé, donc là on détruit et en fait, en donnant de l'argent, on dit qu'on a compensé. Alors qu'il n'y a pas un nouveau terrain qui est protégé, je veux dire.
Et ça, c'est vraiment. C'est Golden Royal qui est à l'origine ou c'est déjà quelque chose qui existait avant ?
Bah franchement,
je suis juste au courant que Ségolène normalement a rouvert la chasse aux loups en invitant chacun à y aller parce qu'il fallait. C'est des mesures toujours un petit peu bizarres, mais elle a certains propos qui paraissent toujours un petit peu.
Je te lis un bout de l'article.
Vas-y.
Alors, aujourd'hui, les destructeurs des lieux et d'espèces protégées ont plus ou moins carte blanche. S'ils compensent par une réserve naturelle la protection d'un lopin de terre, la restauration d'une zone humide. La nouvelle loi va leur permettre de systématiser la compensation, et ce, grâce à des réserves d'actifs naturels, comme l'explique un collectif d'associations naturalistes, qui, eux, appellent à les parlementaires à rejeter les articles 33A, B et C de cette loi. Donc, ce grand ami de la nature sonnante et trébuchante dispose en effet dans la plaine de la Croix, donc ce grand ami c'est la Caisse des dépôts, une réserve naturelle de 357 hectares qui abrite des outardes, un petit échassier menacé, et qu'elle vend 40 000 euros l'hectare. Vous détruisez une mare bourrée d'amphibiens rarissimes, dont la disparition est estimée à 40 000 euros. Hop, vous achetez cet actif de 1 hectare et vous voilà béni par Ségolène, laquelle compte bien avec cette loi assurer l'avenir de la compensation vite fait sur le gaz à la grande satisfaction de l'État, des aménageurs et des écologistes à la placer. De quoi nous faire monter l'outarde au nez. Donc d'après Le Canard, ça a l'air d'être...
C'est une nouvelle loi.
Ségolène
Oui, d'accord. Non, mais après c'est...
Voilà, mais je relaie l'info, quoi.
Une petite pause musicale avant de...
Ouais, et peut-être que Robin, tu as une actu aussi à nous dire avant de s'écouter un petit morceau.
Le 12 septembre, l'Alternativa à Évreux.
Okay. Non, juste un point sur la déviation, je voulais quand même dire que ce week-end, ils mettent en place le pont, je crois, sur la voie ferrée. Donc, on a déjà parlé assez longuement. Moi, je vous avais parlé d'une pétition qui était en ligne pour défendre une chauve-souris dont j'ai oublié le nom. Eh bien, je crois que si vous avez voté si vous avez signé cette pétition, vous serez invité à aller voir un peu ce qui se passe dans la forêt d'Évreux dimanche.
Principe actif, un air de vie, c'était quoi, Kevin?
Écoute, c'était quoi? Alors, je regarde sur mon...
C'était
je
quoi, Robin?
Georges Brassens, non?
Ça s'appelle un morceau qui s'appelle Mardi Gras et c'est Pierre Quenders, mais je ne suis pas sûr de bien prononcer. Voilà.
Nous recevons aujourd'hui Robin, qui représente donc l'association Heure en Transition, qui est venu nous présenter les activités de l'association, n'est-ce pas, Fred?
Oui, alors qui est venu nous présenter. Alors l'association avec Robin, Gorge Rouge, nous on te connaît un petit peu, ça fait quelques fois qu'on est venu à ta rencontre.
Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse quand même Robin, parce que moi j'ai tapé Gorge Rouge sur Google, je suis tombé sur des soutiens-gorge à décolleter. C'est vrai, je suis tombé sur les petits oiseaux, etc. Tout le monde n'est pas forcément... Par contre, on peut quand même un petit peu le décrire, parce que peut-être que les gens le connaissent sans le connaître, mais de vue, parce qu'il se balade souvent à Évreux, à vélo, avec une barbe, des cheveux bouclés. C'est vrai qu'il y a un...
Et parfois un chapeau.
Quand il pleut.
Et un petit chapeau aussi.
Parfois en sabot.
Ce soir en trottinette.
Voilà. Vous l'avez sans doute croisé dans les rues d'Évreux. Et donc, Robin, il fait vivre depuis quelques années sur Évreux la dynamique de la transition. Et je ne sais pas comment on dit transition, des villes en transition.
Oui, les villes en transition, les territoires en transition, les villes et territoires en transition. Enfin, sur Internet, c'est transitionfrance.fr.
Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'historique de ce mouvement, un peu comment il s'est créé, d'où est-ce qu'il vient
Oui. Alors, c'est un dénommé Rob Hopkins, un Anglais qui est professeur de permaculture de son métier, qui a publié en 2008 un bouquin qui s'appelle en français « Le manuel de transition », traduction française en 2010, dans lequel il décrit une première initiative de transition à Totnes, en Angleterre, qui a démarré en 2006 et qui consiste à essayer de préparer l'après-pétrole. Avec les deux arguments suivants, c'est que d'une part, le pétrole produit des gaz à effet de serre, produit le réchauffement climatique, et donc c'est une calamité, et que d'autre part, si on ne fait rien, de toute façon, il va finir par nous manquer un jour ou l'autre, et rapidement. Donc avec ces deux arguments, il faut se préparer et accélérer l'après-pétrole, sans compter que derrière, il y a le troisième argument, sur lequel il insiste moins, qui est que les énergies renouvelables ne vont jamais être à la hauteur de la puissance énergétique du pétrole. Et donc on va avoir une descente énergétique très importante.
Alors ce qui est intéressant pour l'expérience de Totnes, c'est que, enfin si je connais bien, c'est toi le spécialiste, tout ça part d'une grève des transports, d'une grève des poids lourds, et où ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, le territoire était très dépendant de tout ce qui est arrivé sur la zone. Enfin, qui se sont rendus compte, alors je ne sais plus la durée, mais qu'en quelques jours, ils pouvaient se retrouver pas en danger de mort, mais quasi. Enfin,
si.
Toute la ville était désorganisée, il y a une grève massive, et cette grève massive leur a montré leur dépendance, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que plus rien n'était produit autour de la ville. Mmh. Et donc cette prise de conscience-là les a incités progressivement à reproduire, à essayer de raccourcir les filières et à se poser la question en effet du fameux bilan carbone de toutes ces choses qu'on retrouve autour de nous.
Et de la fameuse résilience, c'est-à-dire la capacité à résister à un choc post-pétrolier. Comment on fait aujourd'hui pour vivre sans pétrole, surtout si ça arrive vite? Et si ça arrive vite, c'est à peu près forcément un chaos. Si on anticipe, on peut recréer quelque chose de très sympathique. Et voilà, entre les deux, pour le moment, on est plutôt dans le scénario « on va attendre ». Et nous, on est plutôt dans le scénario « il faut anticiper ». Parce que quand ça va arriver, et c'est en train d'arriver en fait, tout le monde le sait sans le savoir, et au fur et à mesure où les choses s'aggravent, parce qu'il y a plein d'indicateurs assez alarmants dans notre société, et on ne fait que réagir en termes de relance de la croissance dans une logique économique classique. Et nous, on a changé complètement de stratégie en se disant « il faut recréer l'abondance locale ». C'est-à-dire, imaginez, par exemple, si on plante une forêt nourricière 100% comestible autour d'Évreux, on n'a plus de stress au niveau alimentaire. Alors certains vont dire « il est fou celui-là parce qu'il va piquer le boulot aux producteurs locaux, maraîchers, céréaliers, agriculteurs, etc. » Je vous raconte une histoire très rapide. Il y a un noyé en plein centre-ville à Évreux qui est sur un parking accessible à tous. Quand les noix tombent en octobre, les voitures roulent dessus, personne ne les ramasse. Ça veut dire que tant que les gens sont solvables, ils vont aller acheter en magasin. Le jour où les gens n'auront plus de moyens financiers pour manger, s'il n'y a pas une forêt comestible à côté, effectivement, ils vont mourir de faim, comme tu le disais tout à l'heure. Donc on ne va pas accélérer l'effondrement, on va plutôt organiser une autre société, va prendre le relais, mais on n'empêchera pas l'effondrement. L'effondrement, il est déjà en cours par tout ce que dit Claude Bourguignon, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'effondrement des terres fertiles, les pesticides, etc. On voit bien qu'il y a plein d'indicateurs inquiétants. Et encore, on n'a rien vu, puisque normalement, aujourd'hui, le pétrole devrait être de plus en plus cher, puisqu'on approche le pic du pétrole. Or, il est de moins en moins cher. Donc, économiquement, c'est déjà difficile. Vous imaginez comment ce serait si le prix de l'essence était à 2 euros? Bon. Et pourtant, ça va venir.
Et puis après, le fait que là, actuellement, le prix du pétrole est diminué, c'est parce qu'il y a de plus en plus recours à des sources de pétrole, alors je ne sais plus comment on les appelle.
Non conventionnels,
les sables bitumeux, après tout ce qui se travaille là-dessus. Non, mais je veux dire, il y a tout un discours, notamment aux États-Unis, sur le fait qu'ils soient devenus indépendants par rapport au pétrole. Là, même sur la chute des prix, enfin, moi j'en ai déjà parlé lors d'une précédente émission, en fin de compte, ils finissent par avoir quand même la mainmise sur ces ressources. Cette mainmise, quelle qu'elle soit, je veux dire, même si on va dans un sens où ça nous rend, on a une dépendance par rapport au prix du pétrole, et en fin de compte, on se rend bien compte que le prix du pétrole à la pompe n'est pas lié directement, en fin de compte, à sa production. C'est des choix politiques.
Tout à fait.
Quand on décide de faire descendre le pétrole, on le fait descendre. Quand on décide de le faire monter. Et là, on n'est pas encore dans une situation de... C'est pas encore tendu, quoi. Je veux dire, on est encore dans une... Notamment avec ces nouvelles ressources. Et donc, cette dépendance-là, elle est vraiment importante. Il faut en avoir conscience. Et des fois, par rapport notamment là au prix du pétrole... Parce que c'est vrai que c'est difficile de réfléchir à ça avec notamment actuellement... le prix du pétrole qui a diminué. Parce qu'actuellement, il recommence, à mon avis, un petit peu à augmenter. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et ce qui est difficile à comprendre, à mon avis, pour les gens, c'est de faire le lien entre cette situation qu'ils vivent tous les jours,
avec ce pétrole qui est omniprésent, parce que je veux dire, le pétrole, on le voit dans les déplacements, mais il est partout, et te dire, il va falloir commencer à changer les choses. C'est pour ça que l'expérience de Totnes est intéressante, parce qu'eux, ils ont été mis devant le fait accompli, ils n'avaient plus pétrole, enfin, ils n'avaient plus accès au transport d'une manière, et cette prise de conscience-là, elle a été nécessaire. Après, derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
À la question comment se passer de voiture aujourd'hui dans notre société telle qu'elle est, il n'y a pas de réponse. Si on enlève la bagnole, tout s'arrête. Quand on pose la question comment on fait pour relocaliser nos productions et défossiliser nos productions, c'est-à-dire produire sans pétrole de manière artisanale, une fois que ce chantier immense est mis en route, on se rend compte à la fin qu'on n'a plus besoin de voiture, puisque tout est produit sur place, on n'a plus besoin de se barrer loin pour travailler, on a du travail sur place. Mais c'est un chantier énorme qui change complètement, radicalement notre vision économique monétaire de la société.
Alors, à propos de vision économique, justement, est-ce que ça veut dire qu'on va replacer au centre entre guillemets des moyens de production, justement l'homme, sa force?
Oui, entre autres, mais...
Mais est-ce que ça peut paraître, je pense, dans certains esprits, notamment le mien, un retour en arrière?
Oui, évidemment, mais quand tu vois la courbe du pétrole sur 4000 ans, tu vois qu'il y a un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on est en haut du pic de production, et cette descente, elle va forcément nous faire retrouver un mode de vie qui va fortement ressembler au précédent. Aujourd'hui, tu enlèves tout le pétrole, qu'est-ce qui te reste ? Tu as deux alternatives, tu as le chaos ou un monde qui ressemble grosso modo à un monde artisanal, peut-être moyenâgeux, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir aussi de grosses différences avec l'avant-pétrole. Donc on évite le scénario chaos. Si on se prend en meilleure option le scénario optimiste, on peut imaginer des choses vachement sympas. Du genre, demain, je vais bosser avec Kevin sur un atelier de tissage. Kevin, il connaît le truc, il me transmet son savoir-faire. Après-demain, c'est moi qui vais avoir acquis le savoir-faire, je vais le transmettre à ma voisine de palier. Bon, on peut imaginer on a une liberté d'imagination devant nous qui est illimitée. On peut réinventer un monde de pur bonheur. En plus, l'une des grosses différences avec l'avant-pétrole, c'est que d'une part, on sait que le progrès à base du pétrole aura été une chimère, il aura duré 150 ans, puis basta. On saura que la Terre est finie, alors qu'avant, on avait l'impression que le monde était infini, qu'il y avait toujours des terres. Donc le localisme nous suffira. On sera revenu de tout ce tourisme qui est encore très très prégnant aujourd'hui. On se dira que, décidément, la vie, elle est locale, y compris culturelle, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui permettent d'imaginer un avenir hyper sympathique.
Donc, pour l'humain, oui.
Alors, ouais. Et je voulais rebondir là-dessus, justement, parce que c'est sur une vision donc, de l'avenir, donc forcément de l'après-pétrole. Après, il y a des gens aussi qui ne croient pas à cet après-pétrole, dans le sens où ils vont se dire, oui, effectivement, mais on aura une équivalence, parce que là, quand on dit que les énergies renouvelables sûrement ne suffiront pas à remplacer pour pouvoir garder le système actuel. Il y a des gens, ils font, ouais, on peut même sûrement peut-être garder le système actuel, même encore plus le développer avec le nucléaire.
Bien.
Comment les convaincre pourquoi leur parler de...
Il faut lire la rubrique anti-nucléaire en dernière page de la décroissance de Stéphane Lhomme, qui s'est fait virer du réseau Sortir du nucléaire, justement, probablement parce qu'il était un peu trop radical. En fait, la part du nucléaire est passée en quelques années, depuis 2001, je crois, de 17% à 9% de la production électrique mondiale. Si je ne m'abuse, ça doit être un truc comme ça. Donc, le nucléaire est en train de s'effondrer. Au cas où, si vous ne savez pas, le nucléaire, ça produit des déchets toxiques. Au cas où, si vous ne savez pas, parfois, il y a des accidents graves en nucléaire, etc. etc. Bon. Et puis, il se trouve que les ressources en uranium ne sont pas en France. Elles sont des pays, par exemple le Niger, dans lesquels il y a des conflits armés. Donc il y a un petit peu un lien entre ces ressources et ces conflits armés, parfois. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de problèmes, quoi. Donc, et puis Areva est au bord de l'effondrement du dépôt de bilan. Ça aussi, je l'ai appris dans la chronique de Stéphane Lhomme. Donc ça fait beaucoup d'arguments pour dire que le nucléaire, c'est pas souhaitable et de toute façon, ça va pas se faire. Et de toute façon, les applications électriques, elles ne sont pas pareilles que les applications du pétrole. Faire rouler le parc français en voiture électrique, dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est une pure hérésie, quoi.
C'est vrai, ça ? En quoi c'est une hérésie, ça, des voitures électriques ?
D'une part, parce que où est-ce que tu vas produire suffisamment de pétrole pour alimenter le parc mondial des voitures ? Tu vas créer combien d'alternateurs ? Tu vas les financer comment ? Tu vas les alimenter avec quel uranium ? Ça coûte énormément cher. Déjà qu'on n'a pas l'argent pour démanteler nos centrales vieillissantes, D'ici en plus quelques années, on va probablement avoir encore quelques accidents. Enfin bon, de toute façon, c'est un scénario qui est complètement ridicule. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'on entend dans ce que j'appelle les médias dominants, ça n'a qu'un but, c'est de faire continuer le système à court terme. Chaque mois, chaque année, chaque jour, c'est un mois, un an, un jour de gagner pour faire perdurer ce système. Le jour où ça s'effondrera, mais ils s'en tapent. Franchement, ils s'en tapent. S'ils étaient vraiment conscients de l'avenir des générations futures, les fameuses générations futures, vous savez, le doigt du milieu, le majeur, là, eh bien, à mon avis, ces gens-là remettraient vraiment en question un tas de choses. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui croient à ce qu'ils disent, hein, mais il y en a aussi plein qui sont hyper cyniques. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand je rencontre quelqu'un qui est en haut de la pyramide culturelle et que j'ai un discours avec lui, face à face avec lui, dans 100% des cas, au bout d'un moment, il perd la face. Alors que quand je discute avec quelqu'un de la rue, c'est plus difficile parce qu'il se dit ce qu'il me raconte, c'est pas possible, c'est trop gros. Au-dessus de lui, ils savent
qui c'est. Qui c'est lui ? Qu'est-ce qu'il me raconte ?
Quand tu parles avec des gens qui sont au-dessus, eh ben en fait, dès que tu détruis leurs arguments, ils perdent la face au sens où ils sont juste cyniques et qu'ils pensent pas qu'ils sont cyniques. Ils l'oublient. Pour eux, comme c'est notre environnement quotidien, culturel, ils l'oublient. Mais dès que tu les mets devant leurs contradictions, au bout d'un moment, soit ils se tirent, soit ils te demandent de se barrer, enfin, ils perdent la face, quoi. À chaque fois, toujours, toujours. Parce que c'est une position qui ne tient pas. C'est une position qui nous mène droit dans le mur, mais vraiment, quoi. Il faut lire La politique de l'oxymore. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin que je viens de terminer, 8,50 €. C'est un régal. Et là, vous allez voir à quel point on va vraiment droit dans le mur et à quel point il est urgent de changer de stratégie.
La politique de l'oxymore, donc, c'est de...
Bertrand Meust.
Ok.
C'est un gars qui est souvent cité dans la décroissance.
Donc, cette ville, donc, en Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà, justement pour se passer, entre guillemets, enfin, de réduire cette dépendance à l'extérieur, et l'extérieur via un carburant qui est le pétrole?
Alors, il y a une différence entre ce qu'ils ont fait et ce qui est souhaitable de faire dans l'idéal, parce qu'ils ont beau être partis en 2006. Il y a un gars qui a sorti 3 bouquins sur son dernier, c'est Vers une société désirable. Et il décrit Totnes en 2012. Et en fait, ils ne sont pas si avancés que ça. Parce que, par exemple, il y a encore 50% des gens qui sont dépendants de la bagnole. Il y a moins de 30% des gens qui sont impliqués réellement dans ce mouvement de transition vers l'après-pétrole. Donc finalement, c'est loin d'être une ville qui est vraiment affranchie du pétrole.
Oui, alors oui, peut-être enfin, pas affranchie,
en même temps, mais... Quand tu dis les chiffres, 50% ouais, de gens qui dépendent à Évreux, on est à 100%. 30% de personnes qui sont...
Non, on n'est pas à 100% dépendant
de personnes
voiture,
qui dépendent de la voiture. Bah,
enfin, il y a quand même des bus, quoi, non ?
Oui, oui. Non, mais, je veux dire, dans leur quotidien, alors, en dehors de... Oui, parce qu'il y a des gens qui ont... Oui, mais par la force des choses.
On est proche des 100% à Évreux, quoi.
Je veux dire, si tu arrives à réduire de 50% les gens qui sont dépendants de la voiture, et si tu arrives à avoir 30% des personnes qui s'impliquent dans ce genre de démarche actuellement, en France, on est combien de pourcents de personnes sont impliquées dans ce type de démarche? Je veux dire, il y a quand même une prise de conscience. Après, que les choses n'aillent pas forcément assez vite, je le comprends, mais c'est des chiffres. Alors après, ce qui est intéressant, et puis après, Totnes, enfin, moi, je ne connais pas personnellement Rob Hopkins, c'est une première pierre. Après, que cette pierre-là soit améliorable, enfin, c'est pas un modèle, c'est pas un hôtel, c'est pas quelque chose auquel on doit. Mais c'est aussi une expérience dont chacun doit s'inspirer pour faire ou pour ne pas faire. Enfin, pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. C'est quand même.
Mais justement, qu'est-ce qu'ils ont réussi en fait là-bas alors ?
Est-ce qu'ils ont relocalisé une production ? Est-ce qu'ils ont développé des savoir-faire qu'il n'y avait plus ? Ce genre de choses.
Oui. Alors, je préfère vous parler de la méthodologie Rob Hopkins, parce que ce qu'ils ont fait concrètement, d'une part, j'en ai une très vague idée par rapport à ce qu'en avait écrit Christian Haro dans son bouquin, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les potentialités qu'on peut faire. C'est ça qui est intéressant. Libérer son imaginaire, c'est pas imiter une expérience qui marche plus ou moins bien à côté. Non, libérer son imaginaire, c'est aller 10 fois plus vite, 10 fois plus loin que eux. Et là, on devient vraiment puissant, au sens de notre possibilité d'action. Bon, moi, j'ai assisté à un atelier à Paris organisé par le mouvement de la transition. On était une cinquantaine, c'était tout que des gens qui faisaient partie de ce mouvement, donc étaient déjà impliqués. Ils nous ont tracé un chemin au sol, à la craie, ils nous ont mis d'un côté du chemin, ils nous ont dit, de l'autre côté, c'est dans 10 ans. de l'autre côté, il n'y a plus de pétrole. Et de l'autre côté, on vit bien. À partir de ce postulat, vous allez franchir ce chemin. Donc tout le monde a franchi le chemin. Et là, on s'est retrouvés et ils nous ont dit, voilà, votre première ressource en 2025, sans pétrole, c'est l'entraide. Donc vous allez vous regrouper par petits groupes de 4 ou 5 personnes. Ce qu'on a fait. Et là, ils nous ont dit, pendant une demi-heure, vous allez imaginer comment vous vivez en 2025 sans pétrole. Et puis, vous allez imaginer un moyen de nous le présenter. Et puis, à la fin de la demi-journée, chacun a présenté à l'ensemble des groupes comment ils vivaient sous la forme qu'ils voulaient. Et ça a été que du bonheur.
Ça donnait quoi alors?
Ça donnait une profusion alimentaire partout. Il n'y avait que des arbres fruitiers, des plantes grimpantes, des haricots géants, des forêts comestibles dans tous les coins. Ça, c'était le truc qui était partout, partout, partout. Et puis chacun y allait de son petit plus sur la production originale des vêtements, comme je le disais tout à l'heure, sous forme de binôme où on allait bosser en se faisant plaisir. Souvent, j'ai une collègue qui me dit « Mais tu te rends pas compte, revenir au métier à tisser, mais c'est Zola ton truc. » Sauf qu'on peut évidemment faire autre chose que Zola. Il y a plein de sociétés traditionnelles dans lesquelles c'était pas Zola. La révolution industrielle, avec ses souffrances, ça a été une partie de notre histoire, mais il y a eu aussi plein de parties de notre histoire qui ont été vachement heureuses. Il y a même plein d'arguments qui disent que le Moyen-Âge, certains ont une vision vachement
dure,
épouvantable, mais en fait, il y a aussi plein d'arguments qui disent que le Moyen-Âge est une époque vachement dorée, que c'est pour ça qu'elle a duré longtemps. Et donc, dans ce jeu-là, il y a eu, par exemple, partout des endroits pour se baigner, des endroits pour se faire des massages, des endroits pour jouer de la musique. Voilà, c'était le plaisir partout, c'était l'opulence partout. Et on n'avait pas cette dépendance à une économie qui nous exploite. On avait au contraire une entière liberté collective, une entière liberté de concertation. Et je crois que le maître mot pour imaginer l'avenir, c'est la concertation et non pas l'échelle individuelle qui, pour moi, ne mène pas à grand chose. La concertation, et ça, on sait plus ce que c'est pas le 1 plus 1. C'est difficile à faire comprendre. Et puis d'autre part, s'affranchir du pétrole. Et ça non plus, on ne le mesure pas.
Une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.
I got to hear. song, 'cause I keep it nice and quiet so I can hear you scream. I wanna hear the one that you do.
Écoutez Participatif, un air des vies. Nous recevons aujourd'hui Robin qui vient nous parler donc de transition, de territoire en transition. Après avoir fait un petit peu de théorie sur et un retour sur certaines expériences, je pense qu'on va s'attacher donc à parler ce qui peut être fait potentiellement sur le secteur d'Évreux ou à l'échelle du département pour commencer.
Voilà, tu peux nous raconter un petit peu, voilà, t'es un peu notre Rob Hopkins à nous, notre Rob Hopkins et Bourrécien, voilà.
Hein. Robert, Rob, Robin.
Voilà. Oh là, oui.
Ouais. Alors, je me suis lancé dans des soirées conférences depuis 2011 à Évreux. J'en ai fait pas mal, à une époque à peu près tous les deux mois. Bon, du coup, on est arrivé à créer une association Heures en Transition fin 2013. On est 21 adhérents aujourd'hui. Hier, on était 20. Voilà. Donc on essaye de faire monter la mayonnaise pour créer des réunions publiques, pour essayer de créer cette invention collective vers un monde faire l'inventaire de ce qu'on pourrait produire en local pour couvrir tous nos besoins vitaux, se nourrir. Alors moi, j'aime bien les forêts comestibles plus que la permaculture et l'agriculture biologique parce que ça fait moins de travail et plus de production. Mais après, il y a tous les autres secteurs. Je pense donc au vestimentaire, qui est un sacré domaine. Je pense à la santé par les plantes. Je pense à l'habitat. Donc comment on fera parce que le béton consomme énormément d'énergie et de pétrole. Donc comment on fera pour se nourrir, pour se loger lors de l'après pétrole. Bon, il y a tous les chantiers qu'il va falloir à un moment donné mener de front. Et donc dans un premier temps, il y a un gros travail d'imagination et de quantification de ce qu'il faudrait produire en local de manière artisanale pour subvenir aux habitants d'Évreux. 50 000 habitants, c'est pas rien. Il faudra estimer les manières de fabriquer, les surfaces au sol cultivées pour des fibres végétales, pour des fibres animales, si c'est de la laine pour le vêtement, etc. Et puis dans un deuxième temps, dans la mise en pratique concrète de cette production locale, le but c'est de se réapproprier des savoir-faire qu'on a perdus, c'est de faire intervenir les organismes de formation locaux pour changer notre fusil d'épaule sur nos savoir-faire. Et on en est encore loin pour le moment. C'est une ultime étape. Et pour mettre en place ce genre de projet, on sent bien qu'il faut énormément de partenaires locaux. Il faut bien aussi comprendre qu'on a besoin absolument d'une reconnaissance de l'institution. Si on n'a pas les institutionnels qui mettent la main à la pâte, on n'y arrivera pas.
Et pour cela, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance, enfin une validation du diagnostic, en fait, de la vision de l'après-pétrole aussi, d'abord. C'est ça qu'il faut aussi faire accepter.
La vision de l'après-pétrole, peut-être que je n'ai pas été assez précis là-dessus, mais en gros, le pic de pétrole a été franchi en 2006. Qui le sait ? À peu près personne. En gros, une personne sur 10. Enfin, personne ne le sait, quoi. La presse ne l'a pas relayé. Ça a été reconnu par l'Agence internationale en 2010. Elle a mis 4 ans à le reconnaître, ce qui est normal. Mais depuis 2010, ça fait 5 ans, la presse ne l'a jamais relayé. Personne n'est au courant qu'on a franchi le pic de pétrole conventionnel, alors que c'est un fait majeur dans notre histoire. Ce qui fait que le pic de pétrole non conventionnel, il va suivre de quelques années. Ceux qui nous disent, il y en a encore pour 50 ans, mais ils nous prennent pour des cons. Ils sont complètement dans la répétition de ce message quotidien qui nous disent, dans mes braves gens, il y en a encore pour... Voilà. Alors que non, ça peut s'effondrer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ça, en gros, 2020, pour la plupart des observateurs fiables, c'est la date la plus lointaine pour avoir franchi le pic du pétrole, tout pétrole confondu. Donc à partir de là, il faut anticiper. Et pour anticiper, pour mettre en place cette production locale, je reviens à mes moutons, il faut à la fois une base de militants parce que tout seul on rame, mais aussi il faut des relais institutionnels. Et du coup, avec la légitimité de cette association Heure en Transition, on est allé voir, on avait déjà été voir l'ancienne municipalité, on a été voir la nouvelle municipalité, donc Guy Lefranc l'a rencontré 3 fois, on a rencontré à peu près la moitié de ses collaborateurs.
Alors, donc, quand tu rencontres Guy Lefranc, comment ça se passe? Tu t'as demandé rendez-vous, vous êtes bien accueilli. Enfin, comment, comment on fait justement en tant que citoyen pour pouvoir...
Il nous a toujours super bien accueillis. C'est un mec charmant. Vraiment, humainement, c'est vraiment quelqu'un de super agréable. Et à chaque fois, il nous dit, ce que vous faites, c'est bien, c'est même impressionnant. Enfin, il nous a carrément fait des super compliments. Il était étonné par la manière dont on était organisé. Chacun présent, on était 7, 8, chacun parlait un peu, etc. Et à chaque fois, il nous a dit, allez-y, faites vos preuves, etc. Sauf qu'au bout de 3 ans, au bout de 3 fois qu'on l'a vu, il continue à nous dire ça. Et en fait, ce qu'on lui a proposé, c'est, puisque lui, sa politique, c'est de développer l'attractivité du territoire, on lui a proposé une double attractivité du territoire. C'est-à-dire, on ne lui a pas proposé de renoncer à ce qu'il fait, mais on lui a dit, relevez le défi pour que, en plus de ce que vous faites, vous annoncez officiellement Évreux, agglomération, pourquoi pas département, association Heure en Transition, se revendique, s'affiche officiellement territoire en transition vers l'après-pétrole. Avec tout ce que ça implique derrière dans nos changements de représentation, avec tout ce que ça implique derrière dans l'accompagnement par les institutionnels de toute cette démarche que je viens de vous exposer, et là, on va 10 fois, 50 fois plus vite que ce qu'on est en train de faire en ce moment où on a du mal, parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit « Oui, mais il y a des énergies de remplacement au pétrole, tout le monde a ça dans la tête. » Donc il faut déconstruire d'abord toutes nos représentations pour au bout d'un moment dire « Bon, on arrête nos conneries, on lance le chantier pour une relocalisation de la production. » Donc c'est long, mais si on a l'appui de la municipalité en termes de com, on leur demande même pas d'argent, on va 1000 fois plus vite.
Et donc concrètement, au niveau des actions, au niveau de ce que vous proposez, je veux dire, quand vous êtes avec au-delà de la communication, quelle attente vous avez par rapport à une municipalité comme Évreux pour pouvoir mettre des choses en place?
Alors, plein de choses. Imagine par exemple qu'on mette en place pendant l'été des chantiers de vacances en local. Donc les gens sont vraiment en vacances. Ils quittent l'endroit d'où ils sont, je pense à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances en priorité, mais je pense aussi à d'autres. Moi, par exemple, quand je pars en vacances, je vais dans le département de l'Eure, je ne me barre pas loin. Et un chantier dans lequel...
Parce que tu voyages en trottinette.
Oui, entre autres. Un chantier dans lequel on planterait des arbres, on se baignerait, on planterait des piscines naturelles, comme ça se fait de plus en plus. Voilà, donc... On crée à la fois quelque chose de super sympa, de très social, dans lequel toutes les associations sociales peuvent nous aider, nous être partenaires, et on participe à la fameuse plantation de cette forêt dans laquelle 100% de ce qui est planté se mange. Voilà, donc ça pourrait être un projet possible.
Ce type-là, cette idée, pour qu'on puisse avoir une image quand même en tête, parce que quand on dit ça même à l'auditeur, là je suis sûr, il y a une forêt comestible, on ne sait même pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt comestible?
Imagine l'Amazonie. Tu te balades dans l'Amazonie et tout autour de toi est comestible. Du bas en haut de la végétation, des légumes racines aux arbres fruitiers. Il y a un entretien obligatoire, c'est la taille des arbres. Sinon, ils vont faire de l'ombre, ils vont faire de la concurrence au reste. En dehors de cet entretien, tu as juste à ramasser, pas tout, une partie de ce qui pousse. Par exemple, allez, on va dire 60%. 40% retourne à la terre, se ressème naturellement, donc c'est un écosystème, donc ça fait bien partie de la permaculture, culture ou agriculture permanente. Il y a des exemples hyper connus, hyper productifs, notamment aux fraternités ouvrières en Belgique et plein d'autres, dont une forêt de plusieurs hectares à Seattle aux États-Unis, en plantation depuis 2012. Donc on sait, on n'invente rien là, on reproduit quelque chose qui existe déjà.
Donc oui, donc ça existe, mais il faut une forêt par exemple de quelle taille pour nourrir combien de personnes? Et comment ça va se passer? On aura un ticket à l'entrée, c'est le premier qui se jette sur le... Comment ça se passe, quoi?
Comment tu récupères ta carotte?
Moi, je veux des carottes.
Petit canaillou. Bon, le chemin se fait en marchant. C'est-à-dire qu'on n'a rien de figé. Il y en a qui nous disent, ouais, mais vous êtes des Khmer verts, vous allez nous imposer un truc. Nous,
des
on a
quoi,
des
Khmer verts. Ah ouais.
On n'est pas du tout dans cet esprit de le collectivisme, c'est le stalinisme, on impose quelque chose à la collectivité. On est dans la convivialité, dans la concertation. Et on a des grandes lignes. Après, on ne sait pas du tout comment ça va se faire. Tout ce qu'on sait, c'est que la concertation va nous apporter toutes les réponses. Et que si on produit l'abondance, il n'y aura pas de problème de pillage. Par exemple, dans les Incroyables Comestibles, l'association qui s'est créée à Évreux récemment, on est très proche d'eux, partageurs, eux, ils mettent des bacs qui sont déjà en place ici à Évreux, avec des pancartes « Servez-vous ». Donc la notion de vol n'existe plus. Ce qui fait que tu ne peux plus voler, puisque de toute façon, si tu te sers, ce n'est plus un vol. À la limite, c'est bizarre parce que les gens n'osent même pas se servir dans ces cas-là. Et quand il y a quelques bacs, ben c'est normal qu'on n'ose pas se servir parce que tu te dis une fois que je me serai servi, il n'y en aura plus. Mais s'il y a des bacs partout ou des productions partout, ouais, ben on peut se servir. Donc, ce n'est plus un problème. Et pourtant, avec le noyer de tout à l'heure, il y en a plein des noix. Et ben les gens ne se servent pas. Sauf qu'on prépare l'avenir. Et cet effondrement, il est très possible qu'il arrive vite. Je le dis maintenant parce que j'ai rassuré en disant pas mal de solutions concrètes qu'on peut mettre en place, mais dans la mesure où on ne peut pas se permettre d'attendre, il faut se tourner vers un dénommé Joseph Tainter, qui a écrit des bouquins sur l'effondrement possible des sociétés complexes, et notamment la nôtre. Il dit, le jour où ça s'arrête à cause d'un nouveau crash boursier, à cause d'une explosion du pic de pétrole, à cause d'un arrêt des transports, le jour où ça s'arrête, on peut très bien avoir en quelques mois, du genre 3-4 mois, la moitié de la population mondiale qui meurt de faim, surtout dans les pays développés, surtout dans les grandes villes, parce qu'on n'a aucune résilience. C'est pour ça que c'est urgent de préparer ça. Parce que le jour où ça arrivera, si on ne l'a pas anticipé, on est vraiment très, très mal.
Alors, pour rester sur le volet justement de nourriture, comment on pourrait se nourrir en produisant localement, est-ce que ça veut dire que tu serais prêt, enfin, t'es plutôt dans un mouvement où tu vas promouvoir ces fameux jardins familiaux pour toutes les personnes qui vivent dans les immeubles. Est-ce que la possibilité justement d'échanger cette production entre guillemets personnelle locale qui se fait dans le domaine, dans la sphère domestique?
Alors déjà entre jardins familiaux et jardins partagés, il y a une grosse différence. Hein. Les jardins familiaux, ce sont des parcelles individuelles, même s'il y a beaucoup d'entraide entre les jardiniers. Moi, j'ai été longtemps au Cambol et c'est super sympa l'ambiance qu'il y a dans ces jardins familiaux. Mais un jardin partagé, il y a un petit bouquin qui s'appelle « Des jardins en partage » qui est passionnant, tout petit. C'est vraiment collectif, c'est vraiment partagé. Il y a toujours quelque chose au milieu du jardin qui appelle le côté convivial avec un barbecue, avec un kiosque à musique, avec des balançoires, des choses comme ça. Et quand on récolte ensemble, on cuisine ensemble, on conserve ensemble, on mange ensemble, voilà, c'est vraiment ça. Et alors évidemment, après, on se dit, ouais, mais il va y avoir des pillages, etc.
Oui,
mais
ça existe déjà, quoi.
Il y a quand même aussi une tendance naturelle, c'est que si je m'investis, si je consacre du temps, si j'ai mis de l'effort physique, j'ai tendance à inconsciemment ou consciemment m'approprier
rien n'est naturel. Tout est culturel. On n'a rien de naturel à part...
Les jardins permaculturels demandent moins de travail que les jardins classiques. Aussi, c'est une autre démarche.
Et puis surtout, je répète, je préfère les forêts comestibles aux jardins partagés. Parce qu'une forêt comestible, c'est beaucoup de travail au départ, mais après, c'est quasiment plus rien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut évidemment faire les deux, on fera probablement les deux.
Donc en gros, celui bientôt là, qui a envie de vivre tout seul, il n'a pas envie de partager, il n'a pas envie de bouffer avec son voisin, il va être dans la merde, quoi.
Petit coquin, provocateur. Pour moi, il n'y aura pas de solution individuelle plus tard. Soit ce sera l'entraide, la convivialité, soit on se tirera les uns sur les autres. Et entre les deux, tu préfères l'individualisme ? Bon, bah allons-y.
Non, mais c'est pas allons-y, nous y sommes. Je veux dire, là, actuellement, la société telle qu'elle est,
on est sur des solutions.
Voilà.
Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ou on va contre en disant on peut trouver quelque chose de beaucoup plus sympathique que l'individualisme, des réseaux d'entraide ? Ça se fait, hein ? Ça se fait de plus en plus.
Oui, non, mais.
En Grèce, entre autres.
Après, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, sur les forêts comestibles, quel recul ils ont sur les expériences en Belgique, à Seattle, tout ça? Parce qu'à Seattle, tu nous dis que ça date de 2012, donc c'est des arbres fruitiers, donc je suppose que depuis 2012, ils n'ont pas une grosse production en fruitiers. Là, l'expérience en Belgique, c'est quel recul on a sur ce genre d'expérience?
Quels sont les retours?
La dernière émission, on parlait de l'expérience de permaculture au Bec-et-Loin. Donc voilà, c'est une expérience qui a une dizaine d'années, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont pas...
2008.
Oui, doit avoir moins de 10 ans, tu vois, 6 ans. 7.
Ouais. C'est très différent ce qui se passe au Bec-et-Loin et ce qui se passe aux fraternités ouvrières. Les fraternités ouvrières, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment une forêt vierge dans laquelle il y a des poches d'eau partout. Donc les oiseaux viennent boire l'eau qu'il y a dans ces poches d'eau. Ce qui fait qu'ils ne vont pas piller les fruits pour boire, parce que les oiseaux mangent souvent des fruits plus pour boire que pour se nourrir. Il y a une biodiversité énorme et c'est impressionnant. On est là-dedans, mais c'est vraiment la forêt vierge. Et tout, 100% est comestible. Alors, ils ont mis 40 ans à la faire pousser, mais en même temps, ils étaient dans une phase d'expérimentation. Ils savent qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, ils feraient autrement.
Ils ont mis 40 ans, donc ça fait 40 ans d'expérimentation pour faire ça ?
Non, ça ne veut pas dire qu'il faut 40 ans.
Non, mais c'est pas ce que je me suis mal exprimé.
Le sachant,
mais...
aujourd'hui, si on plante aujourd'hui une forêt comestible, là, dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera debout, elle sera adulte, notre forêt.
Ah oui, mais ça fait déjà 40 ans qu'ils sont dessus, quoi, pour trouver un équilibre de forêt viable.
Oui, sauf qu'ils l'ont inventé, ils l'ont expérimenté. Donc aujourd'hui, en allant prendre des idées chez eux, chez Zeppelzer, chez plein d'autres, il y a des réseaux en France, il y a Brandpaille, il y a Franck Nati, enfin il y a plein de trucs sur la permaculture. Il y a encore une expérience qui vient d'être lancée dans la Drôme. Bon, en mutualisant tous ces savoir-faire, si un jour il y a un projet de forêt comestible qui naît à Évreux, en 10 jours, on rassemble 10 000 contacts, 10 000 informations et puis ça va partir. Quoi,
mais vraiment une question peut-être un peu bête. On peut mettre en rapport la forêt comestible avec le reboisement compensatoire de la déviation. Ce serait peut-être une solution qui satisferait tout.
Allez, une pause musicale et on se retrouve après.
C'est une des choses que je fais quand je commence un film. Quand je commence un film, quand je pense à écrire un film, quand j'ai une idée pour un film. Is what I'll do is I'll go through my record collection and just start playing songs, trying to like basically I guess in some ways find the personality of the movie, find the spirit of the movie, and then boom eventually like I'll get like 1, 2, 3 songs that like you know one song in particular oh this would be a great opening credit song you know because to me the opening credits are very very important because that's sort of like your That's like the only like mood time that most movies give themselves, you know, and like you know a cool credit sequence and the like with that and the music that plays in front of it, you know, or no play any music in front of it, you know, whatever you decide to do, that sets up like a tone for the movie that is important for you.
C'était pas mal hein, comme musique. On va partir pour un nouveau morceau. C'est parti, à tout de suite. On se retrouve juste après.
Who is ever
Vous écoutez Principe Actif, un art de vie, et aujourd'hui nous parlons de transition, de territoire en transition, avec Robin Branchu qui est notre invité. Fred ?
Oui, bah alors les actions, donc Robin, notre robe à nous. J'aime bien
notre
cette...
Rob Hawkins, c'est ça que tu veux dire ?
Notre robe.
Hein, pour les gens qui viennent d'arriver sur la radio et qui ne savent même pas de quoi on parle.
Donc, je peux vous parler un petit peu plus en détail des rendez-vous qu'on a eus et des projets qu'on a avec les élus, même si c'est un peu un serpent de mer. Mais bon, à un moment donné, on sait bien que ça va peut-être déboucher. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les élections, donc on comprend que pendant 2 mois, ils avaient d'autres choses à faire. N'empêche que voilà, les projets qu'on a ensemble, c'est entre autres avec Xavier Hubert d'aller rencontrer une de ses collaboratrices, puis après, si on a son aval, d'aller rencontrer les jeunes agriculteurs de l'heure pour essayer d'avoir un hectare le plus près possible d'Évreux pour y planter une forêt comestible, donc énorme chantier. Voilà. On a en projet d'accès à une friche pour un jardin partagé et pour la construction d'une maison en autoconstruction, sachant que dans le groupe, on a deux architectes, plus pas mal de bricoleurs pour avoir un local en autoconstruction. Donc là, on demande juste la mise à disposition d'un terrain en friche, constructible certes, mais a priori qui n'est pas forcément un gros manque à gagner pour la ville. Donc on ne demande pas vraiment d'argent, même si c'est une mise à disposition, ok.
Et c'est juste, l'autoconstruction, ça consiste en quoi ?
Ben, c'est la fabrication d'un local avec des matériaux locaux qui sont pris par exemple dans la terre ou alors en paille. Les maisons en paille, c'est une isolation irremplaçable, inimitable, incomparable. En gros, tu te mets une bougie puis c'est bon, t'es chauffé, quoi. C'est impressionnant. Alors, à chaque fois, on en entend parler, ça rentre par une oreille puis ça sort. En fait, je reviens sur le thème de l'information. Comme on est constamment désinformé par les médias dominants, quand on a une bonne information, 6 mois après, on l'a oublié, quoi. Mais les maisons en paille, c'est vraiment super, à tout point de vue.
Bah, j'avais parlé avec un petit cochon qui avait une maison en paille.
Oui,
il l'avait regretté. Quand tu appelles une maison en paille, c'est quoi ? C'est une maison en torchis ou c'est une maison...
C'est des bottes de paille tassées, très tassées. Et par-dessus, on met un enduit à la chaux pour éviter les rongeurs, notamment. Et puis,
donc c'est une structure bois-paille
Bois ou pas bois, parfois, oui, il y a souvent une structure en bois, mais il y a une ossature bois ou pas. Parfois, il y a juste les angles qui sont en bois, et puis après, les bottes de paille se tiennent d'elles-mêmes. Avec le poids du toit, ça tient, quoi.
D'accord, mais quand tu parles des bottes, c'est des anciennes bottes qu'on avait en épaisseur...
Des petites.
Oui, les petits modèles, oui. D'accord.
Des petites bottes, oui. Mais bon, on peut aussi faire des grosses bottes, mais là, on gâche pas mal de paille.
D'accord.
Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet ? On a un projet de... Alors là, le maire, il n'est pas très chaud, donc on le travaille au corps.
Travaille au corps, le maire, toi ?
Ouais, je travaille au corps. J'aime bien travailler au corps, surtout Guy Lefranc. C'est le projet d'avoir une monnaie locale. On a une opportunité d'appeler notre monnaie l'heureuse. C'est pas n'importe qui peut se permettre ça, hein, oui. Dans le département de l'Eure. Bon. Lui, il ne comprend pas parce qu'à mon avis, il associe cette monnaie locale à un retour au franc, un truc comme ça. Sauf que pour moi, il y a 2 conditions.
Oh oui, Guy Lefranc, très bon.
Oui, très bien, exact. Pour moi, il y a 2 conditions pour qu'un territoire soit résilient. La première, c'est celle dont je parle depuis le début, c'est qu'elle ait une production locale sans énergie fossile. Et la deuxième, c'est qu'il y ait une monnaie locale. Imaginez qu'on ait une production locale assez importante et qu'il y a un effondrement économique de l'euro. Comment on fait pour échanger entre nous ? C'est très dur, on fait du troc, il n'y a plus rien d'autre que le troc. Et pour faire du troc, il faut une production locale hyper développée, dans tous les sens, que tout le monde produise quelque chose. On en est hyper loin. Si on a une monnaie locale, l'euro s'effondre, la monnaie locale se détache de l'euro et on peut créer une économie locale monétaire. Mais monétaire, pas au sens spéculatif du terme, au sens des monnaies locales. Alors pour votre information, il y a un gros projet de monnaie locale à Rouen, agglomération Rouen en transition, ça fait plus de 2 ans qu'ils y sont, ils bossent beaucoup, donc c'est un énorme chantier. Donc tout le problème, c'est de mener de front ces 2 chantiers, la relocalisation de la production et la création d'une monnaie locale. À Évreux, on en est loin.
Et l'idée, pour approfondir cette idée de monnaie locale, donc c'est une monnaie qui n'aurait de valeur que localement. On pourrait pas s'en servir.
Oui, tout à fait.
Je voyage,
qui est imprimé localement.
Aussi, oui.
Qui serait. Ah oui, d'accord.
Non,
aussi,
mais
enfin, bref.
La question, c'est surtout la monnaie, parce qu'il y a plusieurs modèles de monnaie locale.
Elle ne permettra pas le troc et l'échange.
Comment on y accède à cette monnaie locale ?
On l'achète avec des euros.
D'accord. C'est pas une monnaie qui se crée par rapport à ses productions ou par rapport à un.
Non, mais par contre, l'avantage de la monnaie locale, c'est qu'elle va booster la production locale. On va pas acheter, on va pas faire ses courses chez Carrefour. On va pas acheter de l'essence avec une monnaie locale. Hein. On va acheter des produits qui sont produits localement, qui sont produits selon un cahier des charges qui est un respect des valeurs humaines, qui est une production biologique si c'est de l'alimentation, etc. On va pas, donc ça va booster une production locale dans le champ de l'économie sociale et solidaire, etc. Un petit clin d'œil à la compagnie des pains bio au passage d'ailleurs, nouvelle boulangerie bio à Évreux qui n'est pas assez connue. Donc là, c'est un vrai. Là aussi, si à un moment donné, on peut créer cette monnaie locale en allant 10 fois plus vite parce que la mairie nous accompagne, parce qu'on n'a pas du tout les moyens humains aujourd'hui de lancer ce chantier dans notre association, ben on devient les rois du pétrole. Elle est bonne, elle est trop facile.
Mais juste une petite. Là, donc, c'est une idée. Mais est-ce que cette idée, là, par exemple, quelqu'un, là, il la lance, il fait hop, ça y est, je la crée, mais on a le droit de le faire? On se prend le droit.
Donc comment
ça se passe?
Je précise.
Comment réagit la Banque nationale de France?
C'est pour se trouver à Rouen, au poste.
À Rouen, ils sont dessus depuis donc plus de 2 ans. Ils sont alors c'est à la louche hein, que je dis. En gros, ils sont 10 à 15 personnes. Ils se réunissent toutes les semaines. Ils démarchent parce qu'il faut trouver des partenaires dans tous les domaines. Il faut trouver évidemment des commerçants qui vont accepter cette monnaie locale. Il faut trouver un support bancaire. Il faut trouver les moyens d'éditer ces billets. Il faut avoir des autorisations. Il faut avoir des lieux où on va acheter ces billets. Et j'en oublie, enfin, c'est vraiment un chantier énorme.
Peut-être que même l'électronique, finalement, même les systèmes de paiement sans papier, etc., permettraient peut-être un usage facilité, non ?
Sauf que l'électronique, c'est encore une chimère qui va se casser la gueule avec notre économie. Il y a pièces et main-d'œuvre là-dessus qui est très intéressant à consulter. Pour moi, l'avenir de l'électronique, il est aussi bouché que l'avenir du pétrole. L'électronique repose sur de l'énergie fossile. C'est l'impossible découplage entre énergie et croissance. Et à un moment donné, on ne va pas avoir un monde sans pétrole avec un monde tout électronique. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Donc l'après-pétrole, ce n'est pas de pétrole et ce n'est pas d'électronique. On va revenir vraiment à des manières de production défossilisées sans électronique.
Donc tu demandes aux gens d'abandonner leur voiture et leur portable.
Je demande rien, je dis que ça va arriver, soit on l'organise, on l'anticipe et ça va bien se passer, tant bien que mal, soit on continue comme aujourd'hui à rien faire, et alors là on court vraiment à la cata. Quoi. Retour à nouveau à Bertrand Behoust, la politique de l'oxymore. Lui il parle de hyper-titanic, on est dans un hyper-titanic aujourd'hui, c'est clair.
Ben, je sais pas, faut trouver l'iceberg. Ou faut peut-être à l'avant du bateau.
Bon, alors pour l'électronique, donc a priori, ce serait fini. Moi, j'en suis pas sûr parce que je sais que l'électronique, on est de plus en plus performant et on fait des choses vraiment qui se réduisent à peu. Il y a même toute une communauté de gens qui sont, hors système, qui essaient de développer, qui font des concepts et qui sont en open source, c'est ce qu'on appelle.
Admettons. Non. Admettons que j'ai dit une connerie.
Ouais.
Imagine le jour où notre économie.
Je trouvais ça bien. Imagine l'électronique.
Moi, j'aimais bien l'électronique.
Imagine le jour où notre économie s'effondre consécutivement au franchissement du pic de pétrole. Et on va pas avoir d'un côté l'économie qui s'effondre et de l'autre côté la vie électronique qui va continuer.
Oui, tu parles de tout de la ça production être... des gadgets, tout ça, non
ça va être Tout va être emporté par la crise qui va arriver. Alors, dans cette histoire-là, on se dit. Ça va arriver plus tard, ce sera dans 50 ans, ce sera, nous on ne le connaîtra pas, on sera mort avant. D'une part c'est hyper cynique, d'autre part même si c'est dans 50 ans, ceux qui seront là dans 50 ans, est-ce qu'ils continueront à raisonner comme nous ou est-ce qu'ils vont avoir un déclic un jour en se disant bon on arrête nos conneries, on se prépare vraiment à l'après-pétrole. Et tant qu'on repousse le bébé, à un moment donné, cette phase d'anticipation nécessaire, elle se réduit et on s'en fout de savoir si elle va être d'un an ou de 50 ans. L'important c'est de l'enclencher. Ici, c'est un principe de précaution vital, quoi. Bertrand Meus, il dit qu'on est en train de foutre la planète en l'air.
Quoi qu'il arrive, il faut l'enclencher pour éviter de se prendre le mur dans la gueule, quoi. C'est ça, en fait.
Oui, et le mur dans la gueule, c'est... Voilà, on joue à la roulette russe avec la planète. Juste, voilà. Et puis, c'est notre quotidien. Et moi, j'écoute plus les infos, parce que dans les infos, ils ne parlent jamais de ça. Ils ne disent jamais que le monde va s'effondrer. Ils disent toujours que le monde va continuer. Bon, bah, c'est une pollution insupportable pour moi. Donc je n'écoute plus les radios, j'arrête de me shooter au télécran de Big Brother.
En fait, ils vont cacher ce type de discours parce qu'ils vont dire que c'est un discours pessimiste. Alors que finalement, toi, quand tu parles, tu vas dire non, c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et parce que je suis optimiste, je cherche des solutions.
Oui, c'est-à-dire...
Alors qu'eux, ils disent non, il n'y a pas de catastrophe à l'après-pétrole.
Oui, c'est-à-dire que l'optimisme des médias, c'est un optimisme déresponsabilisant. Alors que moi, je prêche un optimisme lucide dans lequel je vois que la catastrophe arrive. Donc il y a un moment de frousse. Et à un moment, une fois qu'on a vu que ça arrivait, on trouve d'autres solutions. Et là, il y a un moment de rebond. Mais on ne peut pas avoir ce moment de rebond si on ne voit pas qu'on va dans la catastrophe. Et on me le dit en boucle, hein, tu fais peur. Mais en fait, on répète ce que disent les médias. Les médias disent, les écolos font peur, ils prêchent la fin du monde, on l'entend et on le répète. Sauf que la réalité, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est plein de choses heureuses que j'ai décrites en long, en large et en travers. Mais on est tellement... bombardé par ces informations qu'au total, si on ne se déconditionne pas, on finit par répéter « Ah oui, il fait peur !» et on oublie les solutions que j'ai proposées. Et on est constamment confronté à ça, quoi. C'est le pot de fer contre le pot de fer informationnel.
Oui, après, par rapport à tout ce que tu décris, par rapport à cette prise de conscience, c'est vrai que on réfléchirait à une solution un peu intermédiaire. C'est un peu les experts du GIEC qui disent « Ouais, si on fait des efforts, ça peut-être s'améliorer », en sachant que ce n'est pas réel.
Les experts du
GIEC.
GIEC.
Et de savoir ça. Et en fin de compte, toi,
tu as haussé les sourcils sur les experts du GIEC.
Non, mais c'est, je dis ça avec. C'est juste pour dire qu'en fin de compte, l'image que tu présentes, ce que tu défends, c'est un changement, mais d'une radicalité complète. Et je pense que c'est les gens. Je veux dire quand tu dis la phrase, c'est la voiture et l'électronique. Les gens, à un moment aujourd'hui, et puis quand je dis les gens, moi aussi, on a du mal à se projeter dans ce monde-là. Alors, ce qui n'est pas un monde si éloigné de nous, hein, je te dis bien ça d'une manière un peu...
Oui, tu veux dire, des gens qui ne se sentent... Non, mais c'est pas que faire,
c'est qu'en fin de compte, c'est difficile.
En fait.
C'est difficile de se projeter.
On sera tous ensemble, enfin, quoi qu'il arrive, donc...
Oui, non, mais et puis, humainement parlant, on nous parle d'un monde où on n'aura plus de repères, tout ce qui nous a construit aura disparu. Et pour moi, c'est cette remise en cause-là qui est vraiment... qui inquiète ou qui peut freiner les gens dans le regard.
C'est ce que j'appelle le raisonnement par procuration. On raisonne par procuration parce que on fait peur, mais en fait, tu dis moi aussi. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que ça te fait pas peur. Je te connais, tu dis ça, tu te fais l'avocat du diable. Donc, c'est pas vrai. Moi, je parle pas à des gens. Je te parle à toi. Bon, là, je suis à la radio, bon, d'accord. Mais je parle pas à des gens, parce que constamment, on me dit, oui, mais tu fais peur. Mais je dis, à qui je fais peur? À toi? C'est toi à qui je fais peur. Et en fait, quand tu grattes et que la personne t'écoute, elle a pas si peur que ça. Elle a peur par procuration, parce qu'on lui a dit que ce discours faisait peur. Sauf que ce discours, il apporte plein de solutions concrètes et qu'on peut les mettre en place sans passer par la procuration, au sens où ça va dépendre des autres. Même si on a besoin des institutionnels, on n'est pas dépendant d'eux. On peut y aller. Alors, il se trouve que la culture jacobine française, c'est-à-dire la culture hiérarchique française, elle a un sacré handicap par rapport aux Anglais qui sont beaucoup plus nombreux dans la rue pour ce genre d'action. Les incroyables comestibles, les villes en transition, ils sont hyper nombreux. Et du coup, les
à quoi ça se tient, ça? Pourquoi, en fait?
C'est culturel. Et du coup, les politiciens les suivent davantage. En France, on est beaucoup plus frileux, on est beaucoup plus blasé par notre monde politique, etc.
Et on est catholique.
Donc, ça nous fait deux handicaps assez lourds à surmonter. Nos politiciens inféodés à l'idéologie dominante de la croissance économique, et puis monsieur tout le monde dans la rue qui a tendance à se dire « mais nous, on ne peut rien faire ». Eh ben, il faut se coltiner avec ces deux handicaps et il faut quand même y aller, quoi.
Enfin, généralement, il y a ce discours de ce défaitisme, c'est « on ne peut rien faire » quand je raisonne individuellement et de façon isolée. Dès que je pense en groupe, je trouve des nouveaux repères, je trouve du réconfort, etc. Donc c'est aussi une autre façon de repenser à l'autre, du rapport à l'autre et de la façon dont on peut fonctionner. Effectivement, si je suis tout seul devant ma télé, ou alors avec ma famille devant ma télé et je vois une catastrophe...
Et de quoi déprimer, quoi.
Voilà. Par contre, si je sais que j'ai des voisins, effectivement, que je peux les appeler ou je peux aller leur demander du sel ou n'importe quoi, tout de suite, en fait, on sort d'une façon de fonctionner purement individualiste. Là, j'exagère le trait parce qu'on nous a rabattu les oreilles avec l'individualisme. Mais effectivement, dès que je raisonne collectif avec un groupe, et on l'a vu à travers différentes manifestations, quelle que soit la cause dernièrement, c'est-à-dire que dès qu'on est nombreux, en fait, il y a une sorte d'assurance, voire même je suis prêt à aller à franchir des obstacles, etc.
Ouais. Alors, du coup, je vais citer un passage de Bertrand Meust sur la débâcle. L'entraide aujourd'hui dans notre société, elle est nécessaire, hein, la convivialité, tout ça, mais elle ne suffit pas. Il faut que ce soit une entraide et une convivialité qui organise une production locale. Si c'est une entraide et une convivialité pour s'entraider le jour où ça va s'effondrer, eh ben, si on compare l'effondrement qui aura lieu bientôt et celui qui a eu lieu à la Deuxième Guerre mondiale, le contexte est radicalement différent. Les campagnes sont complètement dépendantes du pétrole, des tracteurs, etc. Alors qu'à l'époque, elles ne l'étaient pas. Il y avait une autonomie à la campagne qu'on a complètement perdue. Donc tant qu'on n'a pas retrouvé cette économie, cette autonomie locale, aujourd'hui, notre solidarité, à court terme, elle ne va rien apporter. Elle apporte quelque chose que si on s'est donné le temps, avant l'effondrement, d'avoir retrouvé une résilience, une capacité de produire localement, artisanalement, etc. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Parce que dans ce que tu disais, à mon avis, tu ne l'avais pas compris.
Une pause musicale ? Vous écoutez Principe Actif, un air de vie, et on parle aujourd'hui donc d'heure en transition. Fred ?
Avec Robin, bah donc voilà, l'émission se termine. On va te laisser le dernier mot, Robin, présenter un petit peu les liens ou les endroits où on peut te retrouver, je ne sais pas, les actions.
Oui, alors on peut me retrouver, donc, comme on disait au début, sur Gorge Rouge, donc en un seul mot, hein, sans tirer. Voilà.
Sur un nouveau blog d'ailleurs,
oui,
tu as changé.
Oui, c'est sur olympe.in maintenant, oui. Parce que Overblog est bourré de pubs, voilà. Et puis sinon, hier soir, on a créé le collectif pour une transition citoyenne de l'heure, donc nouvelle entité qui regroupe une dizaine d'associations. Et avec ce collectif, on est en train de préparer l'Alternativa le 12 septembre prochain.
Donc, tu là, peux dire juste un mot sur ce que c'est qu'elle c'est pas un... ce qui va se passer à Évreux, mais juste Alternativa dans l'idée.
C'est un groupe de musique, ça, Alternativa. Voilà.
C'est un village des associations. C'est parti de Bayonne en fin 2013 où ils ont organisé un gros Alternativa qui a rassemblé 12 000 personnes. Donc ici, on en aura peut-être 2 000, 5 000, j'en sais rien. Enfin voilà, on va essayer de faire un gros truc pour essayer de dire coucou, changeons de paradigme. Voilà.
Voilà, le but est vraiment de réunir différentes associations qui sont autour de mêmes thématiques. Je sais pas, j'ai entendu parler des colibris, j'ai entendu parler des artisans du monde, j'ai entendu. Voilà, c'est vraiment de faire un collectif d'associations qui se réunissent autour d'une action.
Ouais.
C'est de la communication, c'est de la rencontre.
C'est un village d'alternatives et on est bien, bien organisé là, pour organiser cet événement le 12 septembre. Parti comme c'est, ça peut être bien, voilà.
Ça peut être une belle journée.
Ouais.
Le 12 septembre, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là.
Samedi. Hein,
après les vacances.
Ah, normalement, si tout va bien, on en reparle début juin.
Oui, okay. Il y aura une émission ici.
Oui, ça sera les prochains invités.
Ceux d'après.
Hein, ce
d'après. Je vous donnerai le planning exactement. À la fin de l'émission, oui. Les gars. J'ai bossé un peu.
C'est pas un poisson d'avril. Hein,
ouais. Non, okay. Non, pas encore. Voilà, donc sinon, bah, pour les événements...
Oui, on a oublié d'inviter. On voulait parler... de l'association Naturellement Reuilly, oui, qui propose ce soir et demain soir, si mes souvenirs sont bons, les sorties nocturnes.
Alors, c'est des sorties très chouettes, on m'a dit.
Exactement, voilà. Vous aurez possibilité donc, de voir des chouettes hulottes et des autres, hiboux grand-ducs, etc. Et dans ces excursions nocturnes, et c'est à partir de 19h, je vous conseille de regarder sur leur site internet.
Donc c'est déjà commencé pour ce soir, mais tu peux me rappeler le nom du monsieur qui...
Alors Alexandre, dans l'association Naturellement Reuilly. Et donc vous tapez Naturellement Reuilly, je ne vous cite pas le site internet compliqué, vous le tapez sur votre barre de recherche favorite. Ou d'autres puits libres aussi, si vous voulez, et vous le trouverez facilement.
Voilà, voilà, je crois qu'ils organisent aussi un événement sur Reuilly, je crois, courant mai, donc c'est vraiment c'est une occasion de les retrouver. On les avait rencontrés samedi
ouais,
dernier.
C'est des gens très sympathiques, David, ouais.
Avec un enregistrement qui est tombé un petit peu à l'eau. Mais
exactement.
Donc voilà, il m'avait expliqué comment désherber mon jardin, mais il m'a pas réservé. Il m'expliquait comment utiliser mon enregistreur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, sinon, je rappellerai quand même cette petite action de dimanche matin. Autour de la déviation qui me tient tant à cœur. Et on voudrait finir juste par un petit mot. Alors, on a eu vent, on a eu des courants d'air, on a eu des, je sais pas comment, des bruissements, on a eu, je travaille, ça fait quelques années qu'on est autour des toilettes sèches.
Sur le site du Festival Rock,
ouais, bah oui.
qui se prépare.
Toujours le dernier vendredi et samedi du mois de juin. Voilà, effectivement, donc on est plus ou moins impliqués tous les deux. Kevin, un jour, nous rejoindra.
Sans doute.
Dans l'organisation. Voilà, dans différents domaines.
On est aux deux bouts de la chaîne. Moi, je suis dans l'accueil et Jérôme est dans le.
Et qu'est-ce qui se passe alors cette année ?
On a entendu qu'effectivement, les financements n'étaient pas au rendez-vous.
Pour le festival.
Et qu'effectivement, ça allait conduire à faire des choix qui sont moins respectueux de l'environnement. Notamment qu'on aurait pu, sur site, des toilettes sèches, mais qu'on viendrait aux bonnes vieilles toilettes chimiques.
Parce que les toilettes sèches sont plus chères que des toilettes chimiques.
Voilà, ça coûte plus parce que les toilettes chimiques, c'est des espèces de barquettes que tu poses et puis tu poses.
En plastique,
et puis tu,
pétrole.
Voilà, non seulement ça, puis avec des produits dedans qui sont peut-être aussi des dérivés du pétrole et que tu laisses pendant 4 jours. Donc en plus, encore une fois, les toilettes sèches, moi j'y ai travaillé, ça fait 3 ans que j'y travaille, avec plaisir, et c'est l'occasion de plein de rencontres. Et c'est la première rencontre, c'est que tous les gens ils nous disent c'est sympa, c'est un lieu agréable. Tu vois, quand Robin nous dit ça sera mieux après, les toilettes sèches, c'est mieux que le chimique, et c'est plus propre, c'est mieux. Donc voilà. Et donc pour des raisons financières, on a peur que les toilettes sèches soient abandonnées pour le prochain festival. Donc notre petite émission, Un air de vie, va essayer de travailler sur le sujet, va essayer d'aller titiller les.
Enfin, on va essayer de rencontrer les organisateurs du festival pour leur proposer de mener une petite action pour trouver un équipement, etc. Que tout ça échappe un peu à un paiement, un financement. Par l'initiative, puis le bénévolat, qu'on construise nous-mêmes les cabines, etc. On va essayer de rencontrer...
Que les idées ne soient pas rayées juste pour des motifs économiques.
Potentiellement, c'est possible. Donc, on va essayer de rencontrer les organisateurs pour leur proposer de créer un mouvement autour de ça. Quoi.
Un grand mouvement des toilettes sèches.
Des toilettes sèches, voilà.
Messieurs, ça sonne la fin de notre émission. Robin, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau parler de toi et parler, bien sûr, de notre chère ville et des futures perspectives. Fred, Jérôme, on dit au revoir aux auditeurs.
Au revoir. Au mois prochain, et puis la lutte continue.
Allez. Bisous, maman.
Un air de vie.
Bonjour à tous, bienvenue sur Principe Actif dans votre émission sur l'environnement.
Une émission proposée par le trio JFK.
Alors, des sujets d'actualité, messieurs ?
Là, on ne parle pas donc de l'ours polaire avec sa banquise qui fond. Là, on parle du chevreuil.
Le débat qui est lancé pour savoir comment on va devoir stocker nos déchets radioactifs.
Moi, je n'ai pas fait bio à l'école, donc...
Alors moi, j'ai fait bio à l'école, j'ai même fait bio après. Enfin, j'ai fait bio toute ma vie et je continue.
Non, on a perdu un département, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Quand je lis les publications de l'ADEME...
Les chiffres de l'ADEME, tu les as.
Voilà. Je suis abonné.
Éclectique, local,
thématiques, sociétales.
Et en fait, Jérôme.
Ouais, voilà.
C'est un peu les trois mousquetaires de.
Voilà, de la radio.
Prenons part à la construction de la société de demain.
OGM poison, ça n'a aucun sens.
On dit non à la farine animale.
C'est très bien d'être critique et en jouant trop la contradiction, on va dans le sens des lobbies.
À limite que toi, tu souhaites manger des OGM et que moi, je ne souhaite pas, ça nous regarde. Cette question, pour moi, elle est essentielle.
On va aller les rencontrer.
La transition alimentaire.
L'éco-citoyenneté.
C'est de la viande sans viande.
C'est de la viande sans viande. Alors expliquez-nous ça.
Kevin, bon, t'es en immersion, comme on dit. T'es revenu les bottes voilà. Côté. Tu sens le bout.
Non, qu'est-ce qu'on pense de ce que tu viens de dire?
J'en suis convaincu.
On parlait de la mooncut, je m'en
allais. Vas-y, attaque. Moi, je connais la mooncut.
Ah, tu connais la mooncut, mais pourquoi?
J'ai une femme.
Alors, je voudrais quand même rappeler que ça se passe près de chez nous.
Coming!